La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. Une émission un peu spéciale ce soir puisque vous devez certainement connaître l'Étincelle, un lieu militant alternatif historique d'Angers puisqu'il existe depuis 1997 et héberge en son sein plusieurs associations et collectifs dans son local situé boulevard du Doyenné et y organise en temps normal ateliers, conférences et concerts. Ce local se veut un lieu de rencontre pour celles et ceux à la recherche d'alternatives, qu'elles soient politiques ou sociales. Il a été attaqué il y a une semaine par un groupuscule d'extrême droite, West Casual, qui l'a revendiqué sur leur réseau ce matin. Leur bibliothèque, leurs affiches, du matériel a été brûlé, de la peinture rouge jetée au mur et leur mobilier détruit. Nous allons en parler au téléphone avec Yon, un des adhérents de l'Étincelle, et on va commencer sans plus tarder. Alors, Yon, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, quand est-ce que tu as rejoint l'Étincelle, ce qui t'a attiré dans ce lieu et ce que tu y as trouvé ?
Moi, j'ai rejoint l'Étincelle il y a bien longtemps déjà. Je ne donnerai pas de date parce que ça montrerait que je commence à être vieux. Mais il y a plusieurs années, et ce qui m'a au départ intéressé, c'est peut-être l'aspect contre-culturel, donc venir à des concerts, etc. Et puis après, petit à petit, on s'intéresse un peu plus aux questions politiques et tout ça. Et puis on rencontre des gens, on discute, et puis on voit que c'est un lieu où on peut s'organiser, on peut faire des choses, on peut réfléchir, on peut aussi, si on a envie d'agir, et bah, se retrouver là pour préparer des actions, des manifestations, tout un tas de trucs, et puis organiser des concerts. Et voilà, c'est un peu les deux aspects du lieu qui m'ont, moi, attiré, et je pense qu'il attire beaucoup de gens, c'est le côté à la fois contre-culturel, avec les concerts et tout ça, et puis l'aspect politique.
Est-ce que tu peux revenir un peu aussi sur le fonctionnement du lieu, donc qui est autogéré et qui fonctionne entre ses adhérents autour du consensus et de la discussion ?
C'est ça. Bah, en gros, toutes les décisions sont prises en assemblée générale. On fait une assemblée générale tous les mois, donc c'est le dernier jeudi de chaque mois. Elle est ouverte à toutes et tous, hein, qu'on soit adhérent d'Étincelle ou pas. Après, c'est effectivement entre adhérents d'Étincelle que les décisions se prennent, mais les gens extérieurs peuvent aussi venir participer et en tout cas discuter avec nous dans les AG. Et c'est là qu'on va décider un peu toute la vie du lieu, que ce soit en termes de programmation, de concerts, etc., que d'événements plus politiques, que les collectifs et les associations membres du lieu vont pouvoir proposer aussi leurs activités, qu'on se cale tout ça, gérer aussi l'intendance un peu quotidienne, les aspects, voilà, les basses besognes quotidiennes, le ménage, les travaux, la bricole, le jardin, etc. Tout ça se décide un peu tous ensemble dans l'Assemblée Générale ou dans les commissions en fonction des envies des uns et des autres.
Comme ça a été évoqué, on trouve plusieurs associations, plusieurs collectifs à l'Étincelle. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de qui on peut trouver dans l'Étincelle ?
Ouais, on peut trouver. Je vais pas citer tout le monde parce que j'ai peur de faire des erreurs et d'oublier certains et certaines, mais on peut trouver à la fois des collectifs qui organisent des concerts, des organisations politiques, des syndicats, des collectifs féministes, des collectifs antiracistes, des gens qui font des cantines, des gens qui font des lectures, des gens qui font plein de choses. Voilà, c'est très très varié et ça englobe plein de secteurs et plein d'activités différentes. Très varié, très riche, et c'est ça qui fait un peu la force du lieu, d'avoir des gens qui sont pas forcément là pour les mêmes raisons, mais qui ont envie quand même d'avancer ensemble dans un lieu comme ça.
Et là, j'imagine que comme de nombreux autres lieux de rencontre, de partage et de diffusion, l'année qui vient de s'écouler a été plus que particulière entre les confinements et les couvre-feux, avec sûrement plus de difficultés à maintenir du lien, à pouvoir créer des événements. Comment est-ce que vous l'avez vécu?
Nous on l'a très très mal vécu, d'autant plus que nous on n'est pas une structure avec des professionnels, il y a que des bénévoles qui sont dedans, donc il a fallu jongler aussi avec nos contraintes personnel, que ce soit nos contraintes professionnelles, familiales, etc. Et puis aussi avec le fait que on avait peut-être moins de droits entre guillemets que d'autres structures qui peuvent accueillir du public, du fait que on n'avait pas de statut salarié. On a quand même aussi été en difficulté d'avoir, je pense, comme beaucoup d'associations dont les locaux appartiennent à la ville, on a été en difficulté pour avoir des informations claires et précises sur ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Alors, peut-être qu'au niveau de la mairie, ils n'avaient pas d'informations non plus, mais à un moment, dire qu'on n'a pas d'informations et peut-être discuter, c'est quelque chose qui est envisageable. Là, ça a vraiment été très, 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 très compliqué. Puis voilà, pour nous qui vivons essentiellement de groupes de musique, de gens qui viennent intervenir, etc., et que tout le monde, tout ce petit monde-là est bénévole et militant, ça a été particulièrement compliqué. On n'allait pas se faire déplacer les gens pour des concerts avec où on avait le droit d'accueillir que 10 personnes, on n'allait pas organiser des conférences pour avoir que 5 personnes à l'intérieur. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui font que ça a été d'un côté très très difficile de se mobiliser, de voir aussi, de pouvoir voir. On peut avoir une vision de l'avenir, et là, on n'a toujours pas de vision de ce qu'on pourra faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quand est-ce qu'on pourra réouvrir au public, quand est-ce qu'on pourra réorganiser des choses de manière à peu près normale, entre guillemets, même si ça reste d'être compliqué encore pour un moment avec la pandémie, mais au moins d'avoir une vision un peu de ce qu'on va pouvoir faire. Là, pour l'instant, on est complètement bloqué. Donc, nous, entre adhérents, on a gardé du lien, on a continué à se voir, alors quand on pouvait se voir en vrai, ou à continuer à avoir du lien à distance entre nous, pour continuer quand même à échanger des infos, puis à continuer à faire, mine de rien, à faire vivre le lieu, même si sans y être directement à l'intérieur. Et voilà, mais c'est vrai que bon, comme pour beaucoup, ça a été une année très compliquée et que ça reste aujourd'hui très compliqué et qu'on sait pas de quoi demain sera fait, quoi.
D'autant plus que à ça s'ajoute donc l'attaque qui a eu lieu. Donc on en a eu des échos, nous, à partir de ce matin, puisque le groupuscule qui est derrière cette attaque a fièrement posté des photos sur leurs réseaux sociaux. Mais elle a eu lieu il y a quelques jours, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça a eu lieu entre le 8 et le 11 janvier. Donc, on est sûr que ça a eu lieu cette période-là. On ne sait pas exactement quand, plus précisément. On sait que ça a eu lieu de nuit. Donc, ça veut dire qu'avec des gens qui peuvent visiblement ne pas respecter le couvre-feu. Voilà. Après, on n'en sait pas plus sur ça. Et on attendait en fait de leur revendication, parce qu'on était quasiment sûr qu'ils allaient revendiquer sur leur réseau cette action. Et donc voilà, aujourd'hui on a eu la preuve et la signature politique que des militants néo-nazis à Angers sont aujourd'hui en capacité de s'introduire dans un local militant, pouvoir prendre du matériel, faire une auto-dafé de livres. C'est quand même un truc qui pour nous paraît quand même très intéressant et posé, enfin très intéressant. C'est important de le signaler plutôt. Et ce qu'on a aussi, c'est que donc ils ont brûlé des livres et ils sont pris en photo avec sur leur photo pour flouter leur visage, parce que ils sont évidemment bien trop courageux pour montrer leur visage. Ils y mettent le crâne de la Waffen-SS. Et une des personnes qui pose sur la photo avec notre matériel dérobé fait un salut nazi. S'il y avait le moindre doute à leur coloration politique et à leur camp politique, là c'est totalement dissipé, et on a clairement en face de nous des néo-nazis. Et donc, je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens qu'aujourd'hui, à Angers, dans les rues d'Angers, il y a des néo-nazis. Qu'on ne soit pas encore dans cette idée que Angers, il y a douceur angevine, etc. Maintenant c'est fini, il y a des néo-nazis dans les rues à Angers.
Comme tu l'as dit, c'est vrai que les photos sont déjà assez assez marquantes, et oui, effectivement, c'est vraiment le fait d'avoir brûlé les livres de votre bibliothèque militante qui là est vraiment un espèce de symbole assez assez dégoûtant, quoi.
Tout à fait, ouais, c'est vraiment au-delà du fait que nous il y a tout un tas de matériel de communication, des journaux, des affiches, etc., qu'on brûlait, effectivement, là, le fait de brûler des livres et de s'en vanter et d'être fier d'avoir brûlé des livres, c'est vraiment quelque chose qui nous choque et qui montre que ils ont franchi un cap quand même à Angers, et que ils sont maintenant prêts à faire beaucoup de choses. Et quand on sait que l'Alvarium, le local d'extrême droite qui se situe en plein centre de la ville d'Angers, là commence à lancer une campagne pour financer l'ouverture d'un local pour y faire de la boxe à Angers, on se dit que là, l'extrême droite, elle franchit un cap encore une fois, et que la violence dans la rue, on risque de la retrouver de plus en plus fréquemment si on n'a pas une réaction beaucoup plus forte s'il n'y a pas une réaction unitaire et très massive et populaire sur la ville, quoi.
Vous aviez donc, évidemment, on imagine des liens assez facilement avec l'Alvarium. L'attaque a été revendiquée par donc West Casual. Est-ce que vous aviez connaissance de ce groupuscule et de qui on peut retrouver dedans et d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors, en fait, West Casual, c'est pas la structure qui a attaqué notre local. En fait, West Casual, c'est plus une sorte de média, média avec énormément de guillemets, qui est présent à la fois sur Facebook, sur Instagram et aujourd'hui sur Telegram, parce que leur page Facebook est régulièrement censurée, en fait, parce que ils font l'apologie de la haine raciale, ils font l'apologie du nazisme, du négationnisme, etc. Et donc, c'est une espèce de, pas comment dire, des groupes qui sont pas réellement constitués un peu partout en France, mais aussi en Europe, et qui en gros mélangent un peu toutes les bas du front qui aiment se foutre sur la gueule, qui aiment foutre sur la gueule à toutes celles et ceux qui pensent pas comme eux, qui ont pas la bonne couleur de peau, qui ont pas la bonne orientation sexuelle. Donc on va retrouver dedans des hooligans, des militants de ce qui était avant le GUD, puis le Bastion Social, qui aujourd'hui gravite autour à Paris, d'un groupe qui s'appelle Les Zouaves, qui est un groupe d'extrême droite qui aime faire le coup de poing dans la rue. Enfin, en gros, c'est ça. C'est tout un groupuscule petits groupuscules qui sont pas vraiment structurés, qui sont pour nous du coup d'autant plus dangereux parce que ce qu'ils aiment c'est la baston casser et voilà. C'est un peu ça qui les réunit, même si parfois politiquement ils sont peut-être pas tous exactement sur la même ligne, mais en tout cas ce qu'ils aiment c'est se foutre sur la gueule et attaquer, ce que je disais, toutes les personnes qui pensent pas comme eux et qui sont pas dans la même direction qu'eux.
Ce qui est assez hallucinant, c'est que au-delà de Telegram, donc qui est une plateforme qui est censée être cryptée et sécurisée, ils ont également reposté les images sur Facebook. Ils ont une page Facebook complètement visible. Ils ont leur adresse mail qui est visible, ce qui montre quand même un sentiment d'impunité qui doit être assez fort, non?
Ouais, bah c'est un peu ça nous qui nous dérange, c'est que voilà ils peuvent dégrader notre local, foutre le feu à nos livres, à notre matériel, poster très fièrement tout ça sur internet, et on a l'impression qu'il leur arrive jamais rien, et que si on prend aussi à Angers l'exemple des militants de l'Alvarium, nous on se cache pas que on pense que tout ce petit monde là est très lié, pour ne pas dire plus. Quand on voit que les militants de l'Alvarium qui peuvent agresser des gens en pleine rue, il y a eu encore un procès la semaine dernière, et qu'ils ressortent relaxés de leur procès, on s'interroge sur la clémence de la justice par rapport à ces personnes-là, et qu'aujourd'hui, nous, on se questionne sur qu'est-ce qui fait que tous ces militants d'extrême droite puissent avoir continué à faire autant de choses, autant d'agressions, autant de violences, etc., sans qu'il se passe jamais rien derrière, et sans que les pouvoirs politiques, parce que ça c'est aussi important, sans que les pouvoirs politiques se bougent. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre local appartient à la mairie. La mairie, aujourd'hui, elle donne quasiment pas signe de vie, et elle nous informe pas sur ce qui se passe, et sur ce qu'elle, elle fait de son côté. Pour l'instant, la mairie n'a pas déposé plainte, à notre information, la mairie n'a pas déposé plainte, et il n'y a rien qui est fait par la mairie pour contrecarrer l'action de l'extrême droite dans la rue aujourd'hui, au jour le jour, à Angers, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble important de rappeler et qui est urgent de dénoncer et de se remettre.
Depuis que ça s'est passé, vous avez pas eu de nouvelles de la mairie? Ils sont pas venus constater les dégâts? Vous avez pas de contact avec la mairie, qui est donc propriétaire du local?
Réussi quand même à avoir des contacts, mais ça a été très difficile, notamment ne serait-ce que pour sécuriser notre local, parce qu'il y avait quand même des fenêtres de cassé, donc tout était potentiellement ouvert aux quatre vents, donc notre local a été sécurisé, mais aujourd'hui on n'a aucun contact, on va dire, avec la sphère politique de la mairie. On a eu des contacts avec des personnes, des responsables des bâtiments de la ville, etc., mais au niveau politique on n'a aucun contact, on ne sait pas du tout comment se positionne la mairie, et ce qu'on ressent tout de suite, c'est que la mairie joue encore une fois le jeu de les deux extrêmes, et mettre dos à dos ou face à face des militants néo-nazis et nous, qui effectivement on se cache pas, on est un lieu antifasciste, on est des militants et des militantes antifascistes. Il y a aucun doute là-dessus, et on se cache pas du tout. Mais sauf que d'un côté, on a des gens qui se battent pour que il y ait plus d'égalité, qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait plus d'émancipation, etc. Et de l'autre côté, on a des gens qui tabassent parce que on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on n'a pas la bonne orientation sexuelle, parce que on n'est pas dans le bon, on va pas dans le bon sens et qu'on suit pas ce qu'ils veulent dire. Et voilà. Et nous, nous comparer à ces gens-là, dire, ouais, mais en gros, les extrêmes se rencontrent, les extrêmes se rencontrent, c'est pour nous extrêmement dangereux et ça ne peut faire que le jeu de l'extrême droite.
Et pour vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Effectivement, maintenant que ça a été revendiqué, donc vous allez essayer de médiatiser un peu plus l'affaire. Vous vous focalisez sur les réparations du lieu. Comment ça va se passer?
Et bah, nous, on va continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, hein, marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire à la fois prévoir effectivement de remettre le local d'aplomb pour, dans la perspective de pouvoir réouvrir, on espère un jour au public et pouvoir accueillir des gens dans le lieu. Et puis dans le même temps, c'est aussi être dans notre local, un lieu où va pouvoir où vont pouvoir se réunir les collectifs militants et associations de la ville pour discuter d'une riposte unitaire par rapport à l'extrême droite pour dire maintenant il y a un cap qui a été franchi, maintenant c'est plus possible, on se met autour d'une table, on discute et on établit ensemble un plan d'action, une stratégie pour les faire reculer et les faire dégager de notre ville. Voilà, pour le dire.
Est-ce que dans cette optique, vous avez un besoin de soutien au-delà de vos adhérents et des gens que vous connaissez? Est-ce que vous avez besoin de dons, de livres, d'objets, d'un coup de main pour des travaux, de quelque chose?
Tout aide est toujours bonne à prendre. Pour l'instant, concrètement, on n'a pas listé encore ce dont on avait besoin et cetera. Mais les gens peuvent aller sur notre blog où on communique difficilement en ce moment étant donné la pandémie mais où on peut nous contacter. Donc notre blog c'est étincelleangers.wordpress.com et à partir de là les gens peuvent entrer en contact avec nous. Et puis évidemment aussi on est aussi preneur de soutien on va dire public, que les gens disent prennent position, que ce soit des associations, des groupes de musique, des collectifs, même des individus prennent position pour soutenir l'étincelle et pour dire que voilà qu'on ne laissera pas passer ça et qu'on est prêt à se mobiliser contre l'extrême droite et qu'on sera toujours prêt à se mobiliser contre l'extrême droite.
Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas évoqué? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte?
Non, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Malheureusement, après c'est surtout qu'on est dans un contexte quand même où l'extrême droite a vraiment le vent en poupe et que nous on est aussi vigilants et on sera vigilants aussi la semaine prochaine, donc samedi 30 janvier, il y a une mobilisation de la Manif pour tous, donc toute la droite, extrême droite catholique conservatrice, et il y aura notamment ils vont notamment se mobiliser à Angers, et on sait que dans le cadre de ces mobilisations, tous les petits groupes dont je parlais, de Nervi, d'extrême droite, néo-nazis, qui aiment la baston, ont tendance à venir se faire plaisir dans ce genre de manifestation, donc nous on sera particulièrement vigilants, et on fera en sorte que la rue à Angers n'appartienne pas à l'extrême droite nauséabonde, mais à celles et ceux qui y vivent et qui veulent la faire vivre dans sa diversité. Voilà.
On remettra le lien vers votre blog sur la page de cette émission. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et puis bon courage pour la suite, et j'espère que il y aura des conséquences.
Oui, nous aussi. Merci à vous de nous avoir laissé prendre la parole, c'est toujours agréable.
Et quant à nous, on va se retrouver pour la fin de cette émission. Ça sera juste après un titre d'Amar 808. Le titre, c'est Gaeta Duniki. C'est un featuring avec Soucha.
धीम तदिरन धीम धीम तदद्रदानी धीम धीम तदद्रदानी धीम धीम तदद्रदानी धीम
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce soir, c'est votre émission hip-hop. On démarre avant cela par le coureur de funk, mais ça sera suivi de Scratch Fellaz et La Mine. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour la dernière émission de cette semaine. Très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Campus. À très vite. Et aujourd'hui, et bien plus que les autres jours, portez-vous bien et faites attention à vous.